Vous écoutez France Inter, il est 18h15.
France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec à nos côtés ce soir celle qui est chargée de piloter le grand débat national promis par Emmanuel Macron pour tenter de sortir de la crise des gilets jaunes. Chantal Jouanneau, la présidente de la Commission nationale du débat public, nous en dira plus dès le début de ce 18-20. Ensuite, nous reviendrons sur son parcours pour le moins atypique. Chantal Jouanneau, ancienne championne de karaté, ancienne ministre des Sports, ancienne secrétaire d'État à l'écologie, qui a préparé aux côtés de Nicolas Sarkozy le Grenelle de l'environnement. Autant dire qu'elle connaît bien la question de la fiscalité écologique, elle qui a suivi de très près les débats autour de la taxe carbone, elle qui a aussi présidé l'ADEME, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie. Également au sommaire de cette émission, préparée par Jimmy Bourquin et réalisée par Étienne Bertin, l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis, et un focus sur les cahiers de doléances que certains maires ont mis à la disposition de leurs administrés. À la fin de cette première heure, comme tous les vendredis, les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Ce soir, nous irons chez un agriculteur du Sud-Ouest qui a ouvert un cabaret, un vrai, avec des plumes, dans son exploitation de garrigues, dans le Tarn. À 19h20, Chantal Jouanneau restera avec nous pour le téléphone sonne afin de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le futur débat national, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Elle sera en compagnie de John Billard, le vice-président de l'Association des maires ruraux de France. Alors, si vous souhaitez les interroger, n'hésitez pas, appelez-nous dès maintenant au 01 45 24 7000.
Claire Servagen. Une semaine en France.
Bonsoir Chantal Jouanneau.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter. Meilleurs vœux pour cette année.
Merci, vous également.
Cette année qui ne ressemble à aucune autre, en tout cas dans la façon dont elle débute, puisque ça fait 7 semaines que la France est secouée par une crise sans précédent, crise des gilets jaunes qui est partie du prix des carburants et qui vire aujourd'hui à la crise de régime. On sait que l'exécutif, pour tenter d'en sortir, a donc décidé d'organiser un grand débat national. C'est inédit. Mmh. Et c'est donc vous, la présidente de la commission du débat public, qui êtes chargée de piloter les opérations. C'est un sacré défi, Chantal Jouanneau.
C'est un beau défi parce qu'effectivement, il n'y a jamais eu dans l'histoire, ni en France, ni ailleurs d'ailleurs, de débat national de cette ampleur. Parce qu'il s'adresse évidemment à toute la nation, mais aussi parce qu'il s'adresse à tous les sujets que les uns et les autres voudront débattre. Donc c'est effectivement un très beau, très très beau défi. Et la commission nationale que je préside n'a pas été créée pour ce débat.
Ça fait un petit moment qu'elle existe.
Ça fait 20 ans qu'elle existe et qu'elle a été créée justement pour garantir le droit à la participation. Parce que déjà à l'époque, on s'était rendu compte qu'il y avait des suspicions autour de la participation et qu'il était en même temps nécessaire de faire participer les citoyens dès l'émergence d'un projet. Et donc cette autorité qui est totalement indépendante du gouvernement, qui ne reçoit vraiment d'ordre de personne, a cette obligation, cette mission fondamentale d'assurer la transparence du débat, sa neutralité, de veiller à ce que tout le monde puisse s'exprimer, qu'aucune parole ne soit discrètement rayée parce qu'elle dérangerait. Et c'est une très belle mission.
Est-ce qu'il y a vraiment besoin, Chantal Jouanneau, d'un débat pour savoir ce qu'attendent les Français? Parce qu'on sait qu'ils veulent de quoi vivre. Il y a cette question du pouvoir d'achat qui revient sans arrêt. Ils veulent moins d'inégalités, ils veulent plus de démocratie. Puis les Gilets jaunes ont fait part d'un certain nombre de revendications. Mmh. Il y a besoin d'un débat national pour ça?
Ce sera le débat de tous les Français. Il s'adresse vraiment à tout le monde. Et notamment à celles et ceux qui s'expriment peu, rarement, ne s'estiment pas légitimes à s'exprimer, ont déserté les élections et toutes les salles de débat. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller à leur rencontre, d'aller leur permettre de s'exprimer. C'est un débat qui va porter sur le constat, c'est-à-dire témoigner de votre situation. Dites-nous ce que vous vivez concrètement, puisque vous faites part d'un défaut d'écoute, justement, des décideurs. Et c'est un débat où chacun pourra porter sa solution. Parce que en 20 ans de débat public, nous, notre constat, c'est que bien souvent, les décideurs arrivent avec des solutions en considérant que c'est la meilleure des solutions. Et dans un bon nombre de cas, eh bien, ils repartent avec d'autres solutions auxquelles ils n'avaient pas nécessairement pensé. Sur 94 gros débats, vraiment des gros projets, en général, on fait vraiment du projet de plus de 300 millions d'euros, dans plus de 20 cas, eh bien, in fine, c'est une solution qui avait été portée par les participants au débat qui a été reprise par le décideur.
Alors Chantal Jouanneau, les Français sont un petit peu dubitatifs. Il y a un sondage qui l'a montré cette semaine. Ils sont un petit peu moins d'un sur deux à croire qu'on va vraiment les écouter. Qu'est-ce que vous dites ce soir à ceux qui se méfient de ce débat, qui n'y croient pas?
Alors, nous, ce qu'on peut leur dire, c'est qu'en termes d'organisation, on est vraiment là pour garantir la totale transparence, la totale indépendance et garantir que toutes les paroles seront écoutées et retransmises de manière fidèle. On ne filtre rien, on donne à voir la parole brute telle qu'elle est. Ensuite, ce qui n'est pas de notre ressort, et ce qui est très important dans ce que posent d'ailleurs comme question nos concitoyens, c'est comment vous nous garantissez que, in fine, ce qu'on a dit, ce qu'on a proposé, le temps qu'on aura consacré à ce débat va servir à quelque chose et qu'il y aura des réponses. Et ça, c'est le rôle du gouvernement. C'est un rôle fondamental. Il y a un pacte de confiance qu'il faut créer rapidement, très rapidement. Le gouvernement a dit pourquoi il voulait faire un débat, sur quel sujet il avait envie que ce débat porte. Maintenant, il faut qu'il dise comment il tiendra compte des conclusions de ce débat, comment il répondra aux propositions qui sont faites, et pas simplement en les balayant, en prenant certaines et pas d'autres, mais en expliquant pourquoi il en reprend certaines et pourquoi il n'en reprend pas d'autres.
Et ça, votre rôle s'arrêtera là ?
Moi, je n'ai pas de rôle politique. C'est-à-dire que je n'interviendrai certainement pas pour dire « ça, c'est une bonne idée, ça, c'est une mauvaise idée ». Ce n'est pas mon rôle. J'ai quitté la politique volontairement. C'est le rôle du gouvernement de faire ces arbitrages.
Quand est-ce qu'il va commencer ce grand débat national, Chantal Jouanneau ? Est-ce que tout est prêt d'abord ?
Alors, il a déjà commencé en réalité.
Du côté des maires.
Vous le soulignez très justement, du côté des maires et puis sur les ronds-points, puisque c'est un mode d'expression. Donc le débat a commencé. L'initiative prise effectivement par les maires ruraux, mais qui a été développée d'ailleurs dans d'autres mairies, de cahiers de doléances, c'est aussi un moyen de recueillir les attentes, les sujets, ce qui compte vraiment pour les gens, pour les personnes, pardon. Et donc ça a déjà commencé. Ensuite, on a tout ce matériau extrêmement intéressant. À partir du 15 janvier, on aura d'autres moyens d'organiser le débat et de participer au débat en organisant chacun à son niveau des réunions, des débats, son débat, et en nous transmettant surtout les comptes rendus de ces débats, en participant sur une plateforme numérique. On va faire des stands aussi pour aller à la rencontre des personnes, que ce soit dans des halls de gare ou sur des marchés. Donc on met en place l'ensemble de ces dispositifs et ce sera opérationnel le 15.
Ça veut dire que tout le monde va pouvoir participer. Moi, je suis une citoyenne lambda. Ah oui. Je ne fais pas partie d'un syndicat, je suis un peu isolée, je ne suis pas dans une association. Je m'adresse à qui ? Je m'adresse à vous, je vais sur votre plateforme,
oui.
Je fais comment ?
Il y aura plusieurs possibilités. Effectivement, aller sur cette fameuse plateforme où nous, on est des facilitateurs, donc on met à votre disposition des outils, des conseils en fait, comment organiser une réunion, comment l'animer, comment rendre compte des résultats. Vous pouvez aussi, via les maires, l'association des maires ruraux est très aidante, et donc via les maires, leur demander des conseils. Ils auront l'ensemble de ces outils aussi à disposition. Donc, vous avez plein de possibilités. Vous pouvez directement contribuer sur la plateforme numérique. Nous, on veut vraiment que ce débat, il soit libre. Libre. Il n'y a pas de sujet dont on ne peut pas parler. On peut parler de tout.
Même s'il y a quand même quatre grands thèmes qui ont été a priori préparés.
Oui, parce que le gouvernement, et de manière parfaitement légitime, a dit... Moi, aujourd'hui, voilà les grands sujets sur lesquels je me pose des questions et que je souhaite voir dans le débat.
Mais ces sujets, on les rappelle, transition écologique, fiscalité, démocratie et citoyenneté et organisation de l'État et services publics.
Voilà. Mais ces sujets ne sont pas exclusifs. Chacun a des questions qui lui tiennent à cœur, qui peuvent porter sur des questions sociales. Il y a eu beaucoup de témoignages de personnes en situation de handicap. Donc chacun peut aussi porter à son niveau, son débat et son sujet, et nous rendrons compte de l'ensemble des sujets, pas simplement les quatre thèmes qui sont portés par le gouvernement.
Ça veut dire que si vous avez beaucoup de doléances sur les 80 km/h, par exemple, vous ferez remonter sur l'ISF, vous ferez remonter aussi.
Bien sûr.
Vous tablez, Chantal Jouanneau, sur la participation de combien de personnes ? Je ne sais pas si on peut poser cette question comme ça. Mais...
Non, en fait, ce serait mentir que vous donniez un chiffre, un objectif. J'en suis bien incapable et l'ensemble des experts qui m'entourent à la Commission nationale en sont totalement incapables, tout simplement parce que ce débat est inédit.
Et en tout cas, pour vous, les conditions de sa réussite, quelles seraient-elles ?
Que tout le monde puisse s'exprimer, que vraiment on entende tous les arguments, que in fine, nous soyons en capacité de donner une image claire, sincère, honnête de ce que pensent nos concitoyens, de ce qu'ils proposent. C'est ça le vrai. Et ensuite, par contre, le vrai succès, ce sont les Françaises et les Français qui en jugeront en fonction des décisions qui seront prises. Mais là, on retourne dans la démocratie et dans la politique.
Voilà, parce que c'est ce que j'allais vous dire, ce débat il va coïncider aussi avec le début de la campagne pour les européennes. Il n'y a pas un risque de confusion quand même, parce qu'il y a peut-être des réunions publiques qui vont virer
les
au meeting politique.
Oui, alors les sujets sont différents. Effectivement, le calendrier n'est pas idéal compte tenu des élections européennes qui auront lieu fin mai. Ceci dit, on par la possibilité que tout le monde a d'organiser une réunion. Donc que vous soyez un groupe d'individus, que vous soyez un syndicat, une association, un maire, vous avez la possibilité de vous saisir et d'organiser un débat. Donc globalement, il y aura tellement d'expressions que la possibilité que ce débat soit politisé et orienté par une seule partie prenante politique est à peu près nulle.
En tout cas, quand on voit que ce sera quelque chose de très divers dans toute la France, ça va être un sacré boulot de faire la synthèse. Hein.
Sacré boulot, oui.
Hein
et oui, je suis d'accord.
Vous êtes équipé, vous avez tout ce qu'il faut.
Je suis d'accord avec vous. Le plus important est de garantir la sincérité du dispositif. Voilà, de garantir que toutes les paroles sont bien prises en compte, bien écoutées, retranscrites sincèrement, fidèlement, sans être un peu bidouillées pour que ce soit plus modéré. Donc c'est vraiment ça l'enjeu central. On y travaille effectivement avec des chercheurs et les personnes qui feront la synthèse sont des personnes indépendante.
Voilà, les Français se posent encore certainement beaucoup de questions, Chantal Joanneau. Ils pourront vous les poser directement tout à l'heure dans le téléphone sonne à partir de 19h20. Mais maintenant, place à l'actualité de la semaine grâce à ce mix qui a été mis en onde par Étienne Bertin. Premier mix de la nouvelle année avec, une fois encore cette semaine, une attention toute particulière pour les Champs-Élysées.
Bonne année!
Beaucoup de
bonne année!
Gotnitor!
C'est bonne année!
Feliz Año Nuevo!
Feliz Año Nuevo!
I'm Saïd, Inch'Allah!
C'est eux qui m'ont emmené là, ils m'ont vu en gilet jaune, ils m'ont attrapé, ils m'ont fait danser! On s'amuse là, il faut de la fête, il faut se nourrir hein, pour repartir au combat!
L'heure de la revanche lundi soir pour l'Arc de Triomphe avec un feu d'artifice multicolore et très peu de jaune sur les Champs-Élysées. Ce soir-là, place aux traditions.
Françaises, Français, je suis heureux de vous présenter tous mes vœux pour l'année qui s'ouvre.
Je dis à Monsieur Macron que l'année 2019, les gilets jaunes, ce n'est pas fini et que ça ira très mal. On repart à fond, on va bloquer la France.
Les gilets jaunes toujours aussi déterminés, Emmanuel Macron aussi qui a présenté ses vœux debout. Sans jamais prononcer le nom de gilets jaunes, le chef de l'État en a fustigé les dérives.
Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse, s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. C'est tout simplement la négation de la France.
Samedi dernier, en pleine trêve des confiseurs, encore des manifestations à Paris, avec cette fois une cible bien précise, les médias.
Je retrouve toutes les traces de l'URSS. Aujourd'hui, la plupart des infos en continu diffusent des informations dignes de la Pravda en URSS.
Lundi, le chef de l'État a prévenu qu'il allait poursuivre les réformes tout en vantant le modèle français.
On ne paye pas, ou presque, la scolarité de nos enfants. On se soigne à un coût parmi les plus faibles des pays développés pour avoir accès à des médecins d'excellence.
Et bien Macron, il nous a dit qu'il faut faire des économies parce qu'on est le pays où on fait le plus pour les gens au niveau de la médecine et tout ça, la sécurité sociale. Nous, on va faire des économies, alors eux, ils s'emmerdent pas. Hein. 500 000 euros de VCR rien qu'à l'Élysée.
Le gouvernement, dans les prochains mois, devra poursuivre ce travail pour changer en profondeur les règles de l'indemnisation du chômage, l'organisation du secteur public et notre système de retraite.
Il a dit qu'il gardait le cap. Mais oui. Et moi, je suis certain que ça va continuer.
En attendant la suite du mouvement, une nouveauté en ce début d'année, le prélèvement à la source pour l'impôt sur le revenu.
Merci de bien vouloir patienter. Un agent de la Direction générale des finances publiques va vous répondre.
Pas assez de monde pour répondre aux contribuables dans les centres de finances publiques, mais le ministre Gérald Darmanin affiche une confiance absolue.
Comme si les Français ne savaient pas qu'il fallait payer l'impôt sur le revenu. Et vous savez quoi, dans un mois, c'est comme le téléphone portable, on se demandera comment on faisait avant.
Tous nos agents sont actuellement en communication.
J'ai toute confiance pour la rentrée de janvier, je pense que ça va être un vrai bordel.
Bonne année.
Meilleur vœu, monsieur Macron.
Bonne année 2019.
Voilà pour ce mix signé Étienne Bertin. Une semaine en France, toujours en compagnie de Chantal Jouanneau. Un petit commentaire sur cette actualité, Chantal Jouanneau. Le pays est tendu quand même.
Le pays est tendu. Nous avons fait, nous, une première analyse extrêmement intéressante, justement, des positions exprimées. Pas une analyse sur qu'est-ce que les personnes demandent, mais comment elles se présentent. Et c'était extrêmement intéressant. Il y a une inversion complète de la posture. C'est-à-dire que les personnes sont très respectueuses en général quand elles écrivent et très aidantes. Mais leur position est de dire, parce que nous sommes, et c'est leur mot, hein, ce sont pas les miens, parce que nous sommes citoyens ordinaires, nous sommes plus légitimes que les politiques pour nous exprimer. Et c'est un message extrêmement fort.
Cette explosion de colère, Chantal Jouanneau, vous l'aviez vue venir, vous ?
On a fait l'année dernière un débat public sur la programmation de l'énergie. Donc c'est pour les 5 ans à venir l'évolution du modèle énergétique. C'était un très bon débat qui s'est terminé le 30 juin. Et à l'occasion des conclusions, on a tiré une sonnette d'alarme. Et la personne qui a présidé ce débat a dit « il y a un risque de jacquerie fiscale ». Parce que la fiscalité écologique est vécue comme une injustice sociale qui pèse sur les personnes qui n'ont pas les moyens de faire autrement et qu'à l'inverse, les personnes, les gros consommateurs n'étaient pas taxés. Et donc, on l'a dit. Et on l'a vraiment dit. On a insisté sur le sentiment d'injustice sociale lié à cette politique. Ce qui prouve que le débat public dit des choses et que ça fonctionne.
C'est vrai qu'il y a des gens qui disaient des choses depuis un bon moment. Oui. Moi, je pense par exemple à Jean-Paul Delevoye, qui a été président de l'Association des maires de France, médiateur de la République il y a une dizaine d'années déjà. Il nous disait « ce pays est psychologiquement fatigué, beaucoup de gens sont à 60 euros près à la fin du mois ». Il y a eu des alertes, on n'en a pas vraiment tenu compte. Et là, je m'adresse à l'ancienne femme politique que vous êtes.
Oui, il y a eu des alertes et donc ce qui est mis en défaut, c'est cette question d'écoute du politique de ces différentes alertes. Alors, vous vous adressez à la femme politique et vous avez rappelé tout à l'heure qu'effectivement, j'avais été dans la conception du Grenelle, du fameux Grenelle de l'environnement.
On va y revenir de toute façon, oui.
Et on avait inscrit à l'époque un principe qui malheureusement est resté lettre morte, qui était le droit à l'alternative. On avait dit, il faut prendre des mesures évidemment pour faire évoluer le pays. D'ailleurs, je pense que c'est une erreur de considérer que les personnes sont hostiles à cette évolution pour plus d'écologie, mais pour les personnes qui ne peuvent pas le faire, il faut leur offrir des alternatives. Et on avait inscrit ce principe-là, mais il est resté lettre morte.
Alors on reviendra sur la fiscalité écologique, Chantal Jouanneau, mais moi je voudrais vous faire écouter un petit peu comment ça se passe du côté de ceux qui vont dans les mairies pour les fameux cahiers de doléances, parce que les maires ont commencé à participer au débat à leur manière. L'association des maires ruraux a fait part de certaines revendications recueillies en mairie. L'occasion pour les habitants en tout cas d'aller s'exprimer, d'aller donner leurs attentes, comme on va le voir avec Théophile Pedrola.
Entre 3000 et 5000 maires de petites communes ont ouvert les portes de leur mairie aux idées de citoyens. Ils ont envoyé leurs résultats à l'Association des maires ruraux de France. Vanik Barbarian en est le président. Pour lui, la hiérarchie est claire.
Le premier, c'est une demande de pouvoir d'achat. Le deuxième, c'est une revendication en matière de justice sociale. Et puis le troisième, c'est ce sentiment d'abandon en matière de services publics. C'est pas qu'une lettre au Père Noël. Ce sont des analyses. Des fois, c'est deux lignes. Des fois, c'est trois pages.
Les problèmes sont multiples et plus nombreux dans la ruralité. L'explication est simple pour Michel Fournier, président de l'association dans les Vosges.
On a toujours considéré, et ça a été une erreur fondamentale, que la ruralité, c'était uniquement le milieu agricole, les paysans. Et ça a été une méconnaissance profonde de qui on était dans cette ruralité.
Tout le monde a participé, pas seulement les Gilets jaunes, promet Vanik Barbarian.
Alors on a eu des bavards, hein, mais aussi des gens qui parlent assez peu. On a vu des gens qui C'était le cas dans l'heure où les gens se sont sapés comme des rois pour venir à la mairie, parce que c'était important pour eux d'aller apporter un document dont ils avaient fait vérifier l'orthographe.
Et cette synthèse sera envoyée dans les prochaines semaines à Emmanuel Macron, Édouard Philippe, ainsi qu'au président de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Chantal Jouanneau, c'est touchant ce qu'il dit Vannick Berberian à un moment. Il dit que des habitants ont pris leurs beaux habits pour venir déposer leur doléance en mairie. Ça veut dire que c'est important de venir s'exprimer.
Ça veut dire déjà que c'était une très belle initiative. Cette initiative d'ouvrir les portes et d'accueillir la parole citoyenne. Ce qui prouve d'ailleurs qu'il y avait un réel besoin. Donc c'est une très belle initiative. Deuxième élément, nous on a toujours constaté effectivement un vrai attachement à la participation, à venir s'exprimer. On est un pays qui aime la participation, qui la pratique énormément. Et c'est pas parce que les taux de participation aux élections sont faibles qu'on doit considérer que chez nous la citoyenneté est faible. C'est faux. On a au contraire une citoyenneté très active, mais qui s'exprime ailleurs. Donc c'est quand même tout l'enjeu effectivement, et les personnes qui viennent s'exprimer, c'est une démarche, et c'est quand même consacrer du temps à une expression citoyenne, c'est une démarche, c'est un engagement, et j'ai trouvé effectivement que ces mots étaient très justes. En plus, l'heure, c'est chez moi. Donc,
voilà.
Merci.
À propos de la fiscalité écologique, vous avez commencé à en parler, puisque vous avez travaillé sur le Grenelle de l'environnement aux côtés de Nicolas Sarkozy, vous avez présidé l'ADEME. Dans un livre que vous avez écrit en 2010, qui s'appelle « Sans tabou », aux éditions de La Martinière, vous revenez sur ce sujet, et vous dites que, de toute façon, pour vous, à terme, c'est une nécessité, la fiscalité écologique sur ces...
Oui, mais alors je ne fais plus de politique, et donc je m'estime plus du tout. J'ai volontairement quitté la politique, donc je ne m'estime pas légitime à commenter ce qui se passe aujourd'hui.
Non, mais on va peut-être revenir sur cette genèse de la taxe carbone.
Sur ce que j'ai effectivement écrit, c'est que, comme vous avez tout lu, vous savez que c'était une évolution profonde de la fiscalité que je recommandais, donc une fiscalité qui pèse moins sur le travail, qui est un phénomène de bascule. Moins de fiscalité qui pèse sur le travail, plus de fiscalité qui pèse sur la pollution, avec ce droit à l'alternative. Si on taxe très fortement le fioul, il faut permettre le remplacement des chaudières avec un zéro reste à charge pour les personnes qui n'ont pas les moyens de le payer. Voilà les éléments qu'il faut mettre en place, parce que c'est une évolution structurelle. Parce que toute la difficulté à laquelle on va vite être confronté, c'est que le prix des énergies, en raison, parce qu'il y a beaucoup de demandes, il va augmenter. Et donc, il faut qu'on s'y prépare et qu'on arrive à mettre en place l'ensemble des dispositifs qui font que les gens ne vont pas se retrouver à la fin du mois avec plus rien à cause de ça.
Il y a donc cette préoccupation qui est légitime. Et puis, il y a effectivement la pollution contre laquelle il faut lutter. La taxe carbone, Chantal Jouanneau, c'est quand même une succession de renoncements. On va quand même en dire un tout petit mot, parce que je crois que c'est un de vos pires souvenirs de ministre. C'était en 2010. Vous racontez que vous n'aviez pas été averti de l'abandon. Et puis, que quand ça s'est passé, vous avez pris la parole. Vous avez dit, je vais peut-être me faire exploser. C'est pas grave, je vais juste parler vrai. Vous étiez désespéré, vous l'avez dit, par l'abandon de la taxe carbone. Et ça vous a valu un sévère rappel à l'ordre de Nicolas Sarkozy à l'époque.
Et pas que, oui.
Il a dit, les ministres n'ont pas à être désespérés, ils ont à faire leur travail.
Oui, mais ils ont aussi le droit d'avoir des convictions et de s'exprimer. Donc oui, déjà à l'époque, je râlais. Mais par conviction, voilà, parce qu'on avait pris, une ligne qu'il me semblait légitime de suivre. Et donc, mais de le faire dans la durée. C'est-à-dire aussi de laisser le temps à l'adaptation. Il faut laisser le temps, pas de précipitation. Et le problème aujourd'hui, c'est que, et déjà hier d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de politiques qui se font dans la précipitation. Elles doivent se construire sur le long terme.
C'est quand même difficile d'être ministre de l'Environnement.
Ah oui, bien sûr, mais c'est difficile d'être ministre tout court. Évidemment, c'est difficile parce que, en plus, on nous accuse toujours de tous les maux. Donc, la question qui est posée aussi aujourd'hui par nos concitoyens, c'est une question de pouvoir d'achat qui va bien au-delà de la question écologique, qui était un élément parmi d'autres.
Chantal Jeannot, que vous inspire la pétition qui a été lancée par plusieurs organisations qui ont décidé d'attaquer l'État pour inaction climatique ? Est-ce que c'est une bonne démarche ou pas ?
Je ne
Vous pouvez pas vous prononcer?
Non, je peux pas parce que effectivement, si je prends une position, une partie de nos concitoyens vont dire, bah voyez, elle a déjà des idées toutes faites, et donc non, c'est pas mon rôle, c'est vraiment plus mon rôle et j'ai pas de position à prendre dans ce domaine.
Même si vous étiez la ministre des fleurs et des abeilles, comme vous disiez à l'époque, oui, à vos enfants.
Oui.
Souviens-tu du pays des oiseaux? Tu sais celui où il fait toujours beau. On dit qu'il n'existe plus. On dit qu'il a disparu. Et dans mes songes, je gravis des montagnes. À l'horizon, les rivières s'éloignent. Ils ont tué les oiseaux. Plus rien ne bouge, il fait chaud. Chose de toi, mais il est mort, il est froid. Du bout des doigts, je caresse la vase. Dieu qu'il était émouvant ce mirage. J'ai entendu le cri du vent et j'ai pleuré doucement. Les orages ont balayé. Qui roule et les châteaux de sable qui périssent sous la vague. Tout se casse, dis-moi ce qu'il se passe. Je le trouve assez bon, attrapé là-haut.
Émilie Loiseau, Pays sauvage, un choix musical signé Djoubaka pour France Inter.
France Inter, le 18-20. Claire Servageant.
Une semaine en France en compagnie de Chantal Joanneau. On va parler un petit peu de votre parcours, Chantal Joanneau. Bah, c'est toujours comme ça dans l'émission. Surtout que votre parcours à vous, il est atypique. Hein, vous avez grandi près de Vernon, dans l'Eure, où votre père dirigeait, je crois, une imprimerie-cartonnerie, c'est ça?
Oui.
Vous êtes allée à l'école...
Dans mon village.
Dans un village, c'était la classe unique, c'est ça?
Oui, dans mon village. Il y avait 150 habitants. Donc, de la maternelle jusqu'au CM2, c'était la classe unique avec une seule maîtresse qui faisait toutes les classes.
Les études ensuite, ça n'a pas été vraiment votre fort, on peut le dire?
C'est-à-dire que j'avais comme appréciation que à chaque fois peut mieux faire, voilà.
Il y a même un prof qui vous a dit que vous ne feriez rien de votre vie.
Exactement. Hein? Oui, c'était mon prof principal juste avant le bac qui m'a expliqué ça. Je trouve que c'est un bien comme manière même, hein, de voir les choses pour les élèves, c'est super.
Après, vous avez fait un BTS de commerce international et vous vous êtes retrouvée assistante commerciale chez Citroën.
Oui. Sur, à l'époque, c'était la grande époque de l'AX. Et donc, je me souviens, on vendait des AX, effectivement, sur l'export en Afrique. Et donc, c'était aussi dans le cadre de mes études. On travaillait en complément des études. Extrêmement intéressant. J'ai fait plein d'autres choses, hein, mais extrêmement intéressant et très formateur.
Toujours est-il que vous avez décidé de poursuivre les études après.
Oui.
Hein? Administration économique et sociale, là ça a été quoi le déclic?
À la fac.
Ça vous a plu?
Je suis allée à la fac avec une amie qui a un petit peu suivi, parce que j'étais comme beaucoup d'étudiants, je savais pas trop quoi faire. Mais j'étais quand même décidée à poursuivre mes études avec le BTS. Alors chez nous, le BTS, dans ma famille, c'était entre guillemets le passage obligé. Il faut avoir un vrai diplôme professionnel si on veut faire des études. Et une fois qu'on a ce diplôme professionnel, on peut penser
à faire des autre trucs chose. Qui ne servent pas forcément. Voilà, c'est un petit peu
exactement.
Ça l'idée.
Exactement. J'étais déjà en fait avec mon mari qui travaillait, donc on pouvait, on s'en sortait. Et donc j'ai à la fac, là oui, par contre, ça a été vraiment la révélation. Le système des universités qui est souvent critiqué par certains, moi j'ai trouvé ça extra et ça m'a passionnée, vraiment passionnée. Et là, en fait, j'avais plus le sentiment de travailler puisque ça me faisait plaisir d'apprendre.
Et puis surtout, vous avez cherché un stage, vous avez carrément frappé à la porte des ministères et là, oui. Bingo, vous allez faire votre stage chez Martine Aubry au ministère du Travail.
En fait, j'ai eu culot d'envoyer une lettre à plein de ministres en leur demandant s'il n'y avait pas un stage auprès d'eux. Et je ne sais pas, peut-être que le chef de cabinet de la ministre m'a confondu avec quelqu'un d'autre. Mais toujours est-il qu'il m'a très gentiment dit, oh bah oui, très bien. Et donc j'ai fait un stage absolument passionnant au ministère du Travail et sur la question spécifique des travailleurs transfrontaliers. Et ça a été assez révélateur, puisque j'ai fait des belles rencontres. Et notamment une personne qui m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu t'arrêtes là? Tu devrais poursuivre tes études et faire Sciences Po. Voilà.
Sciences Po, l'ENA.
C'est comme Sciences Po, je savais même pas où c'était.
Vous savez pas. Non. Voilà, mais enfin, vous faites Sciences Po, vous faites l'ENA, puis un beau jour, vous vous retrouvez, aux fonctionnaires, à écrire les discours de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, puis vous devenez sa conseillère pour les questions d'environnement. Sacré parcours, Chantal Joanneau.
Beaucoup de belles rencontres et puis beaucoup d'opportunités que j'ai saisies sans trop réfléchir d'ailleurs. À chaque fois qu'on me proposait quelque chose d'un peu nouveau et d'un petit peu atypique, j'ai dit oui parce que c'était stimulant. Mais j'ai eu la chance de faire aussi des rencontres de personnes formidables.
Il y a eu Nicolas Sarkozy, hein?
Oui, écoutez, ça a été extrêmement. Oui, ça a été humainement une personne très très riche parce que et qui effectivement m'a donné la chance d'avoir de belles responsabilités. Après, on n'a pas été d'accord sur tout, loin de là, notamment sur des aspects plus politiques. Mais humainement, jamais je ne le critiquerai.
Alors vous avez travaillé avec Nicolas Sarkozy, avec Jean-Louis Borloo, puisque vous avez été secrétaire d'État
auprès de lui,
à l'écologie. Vous avez aussi été ministre des Sports, Chantal Joanneau.
Oui.
Et ça, il faut évidemment qu'on évoque cet aspect de votre CV, parce qu'il y a quand même 12 titres, peut-être même 13 de championne de France de karaté,
il y en avait 12 jusqu'en 2010, où il y a eu le 13e. Et puis 12.
Vous êtes revenu dans la catégorie vétéran, c'est ça?
Ah bah oui, forcément. Bah oui. Et 12 en Coupe de France. En fait, j'ai commencé le karaté toute petite, à 9 ans, mais c'était presque de famille. Hein. Tout le monde faisait des sports de combat chez moi. Et il se trouve que c'était ma première vie. J'étais vraiment dans cette optique de dire j'en ferai toute ma vie. Je me suis beaucoup entraînée. J'ai fait partie de l'équipe de France. Donc c'était vraiment ma première vie, mais avec toute la richesse que peut apporter le sport, c'est-à-dire des rencontres. C'était un sport totalement inconnu, donc on n'avait pas la problématique de l'argent qui pouvait altérer les valeurs du sport. Et ça a été une aventure absolument
karaté,
extraordinaire.
Karaté de posture, donc ça veut dire.
Alors le karaté, en fait, quand vous faites du karaté. Vous avez une dimension, le combat classique, que je faisais aussi, j'aime beaucoup, et d'ailleurs heureusement, et puis la technique. Donc c'est vraiment, parce que quand vous faites un combat, pour que ça fonctionne, il faut parfaitement maîtriser la technique. Et donc il y a des exercices qu'on appelle des katas. On évite d'employer ce mot, parce qu'il y a beaucoup de jeux de mots autour de ça. Et donc j'étais effectivement plutôt sur les katas en compétition.
ministre des Sports. Après, vous avez été sénatrice, conseillère régionale. Et donc, quoi, l'année dernière, il y a un petit peu plus d'un an, vous avez dit que vous mettiez un terme à votre carrière politique. Vous avez même rejoint un cabinet de chasseurs de tête. Vous avez dit à l'Opinion, au journal L'Opinion, vous n'entendrez plus jamais parler de moi.
Bah, en politique, raté, c'est vrai. Hein, non, mais alors en politique, c'est vrai. Enfin, je ne me suis pas totalement rognée. Après, voilà, il ne faut jamais dire jamais. Ça, c'est le plus important. Mais,
il paraît qu'Édouard Philippe vous avait proposé d'entrer au gouvernement en 2017, c'est vrai ça?
Mais j'étais déjà engagée pour quitter la vie politique.
Parce que, a priori, cette idée d'un gouvernement est de droite et de gauche, pour une centriste comme vous, ça pouvait être pertinent, ça pouvait être intéressant?
En fait, j'avais fait le choix de quitter la vie politique parce que j'ai passé 15 ans dans la vie politique, 15 ans soit effectivement comme élue, soit dans ce que j'appelle l'arrière-boutique. Mais c'était passionnant, j'ai vu de très belles choses. J'ai une grande affection pour les élus locaux, que je trouvais extraordinaire. Mais en même temps, moi, j'en avais vu aussi les limites à mon niveau, parce que et peut-être, voilà, malheureusement ou finalement, ces limites, c'est celles qu'on voit actuellement. Et donc, je souhaitais m'engager dans une autre carrière pour des raisons aussi très très personnelles. Et donc, la politique aussi, laissons place à d'autres personnes maintenant.
Enfin, vous vous retrouvez tout près de la politique quand même, Chantal Jouanneau, aujourd'hui, même si c'est dans un autre cadre.
Hein, mais je tiens particulièrement, effectivement, à mon indépendance et à cette neutralité.
Il est 18h51, on va passer, comme tous les vendredis, à notre rubrique positive, ce sont les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Sandrine, vous avez passé le réveillon du 31 à la ferme, et pas n'importe quel réveillon. Vous êtes allée chez un agriculteur du Tarn qui a ouvert un cabaret dans son exploitation, un vrai cabaret, avec froufrou, paillettes et trucs en plume. Au départ, tout le monde a pris David Comette pour un dingue, mais depuis qu'il a ouvert les Folies Fermières, fin 2015, le succès est au rendez-vous.
Talons aiguilles et bouse de vache, il n'y a plus glamour, c'est sûr. Maintenant, on est le 4 janvier, les Folies Fermières sont complètes sur plusieurs semaines. Après 3 ans d'existence, l'éleveur projette déjà de s'agrandir. Bref, ça cartonne.
Alors, qu'est-ce qui attire Sandrine? C'est le côté drôle et insolite, j'imagine?
Évidemment, mais pas que. D'abord, le spectacle est de qualité, David y tient beaucoup, et puis l'assiette est de qualité. Tous les produits servis viennent directement soit de sa ferme, c'est comme ça qu'il s'en sort en écoulant sa viande, soit de la ferme des copains aux alentours. C'est ce qui est très touchant. David sauve son exploitation et celle du secteur.
Et le soir du spectacle, donc, tout le monde s'y met, c'est ça?
L'éleveur de caille se retrouve barman, le céréalier DJ, le viticulteur sommelier, d'autres servent à table. C'est très, très sympa.
Allez, on part dans le sud, dans la petite commune de Garrigues, à la rencontre de cet éleveur qui, toutes les semaines, troque sa combinaison de travail pour le costard-cravate.
Bottes, mocassins, bottes, mocassins, bottes, mocassins. David a dû s'y résigner à cause d'elle.
Allez, princesse, hein ?
Bien.
C'est pour elle, ce cabaret?
Ah, mais c'est surtout pour elle, parce qu'en 50 ans, on est passé de 200 personnes qui vivaient de l'agriculture, et aujourd'hui, il ne reste plus que moi comme éleveur dans la commune.
C'était se diversifier ou mourir, quoi.
Ah, c'était ça ou crever. C'était impératif, c'est l'instinct de survie là, qui a priorisé. Aujourd'hui, si on ne se diversifie pas dans l'élevage, on n'a plus de seuil de rentabilité, donc on travaille pour la gloire, quoi. Alors qu'on travaille, il ne faut pas l'oublier, 7 jours sur 7. Là, c'est le jour du réveillon. Ce soir, on va aller soigner les vaches, et demain matin, il faut re-soigner les vaches. Donc c'est l'amour du métier qui veut ça. Pour sauver ces vaches, je suis prêt à me diversifier et faire tous les métiers du monde.
Avec des plumes.
Avec des plumes, voilà. C'est-à-dire, on a mis les plumes sur scène, puis surtout, on est en communion avec les consommateurs. Comme c'est des amateurs de bonne viande, ça nous est arrivé de vendre des entrecôtes à 2h du matin sur le parking du cabaret. Et c'est ça. Sauver des paysans, venez au cabaret.
Il est juste en face.
Ça marche ou pas?
Ouais, tout va bien.
Vin rouge, vin rosé, vin blanc.
En salle, Grégory prépare les apéros.
Dans la vie, je suis éleveur de lapins, caillas.
Et au cabaret, vous êtes barman?
En partie, barman.
Sans le cabaret, ce serait quoi?
Le cabaret permet de finir de vivre, je vais dire. Notre production, elle passe aussi en petite partie sur le cabaret. Et après, c'est que derrière, ben, on a un petit revenu par rapport aux tâches qu'on effectue sur le cabaret.
C'est pas négligeable pour un jeune agriculteur?
Non, parce que bon, mon père vient de prendre la retraite. Hein. La retraite n'est pas bien fameuse dans l'agriculture. Il faut quand même que la famille vive toujours, quoi.
Donc ça, c'est du vrai pain de campagne. Parce que là, il croustille déjà, tu vois. Giovanni, t'en manges pas un bout, toi, parce que lui, c'est un petit voleur.
C'est votre fils?
C'est mon fils.
Toi, qu'est-ce que t'en penses du cabaret?
Moi, bien.
Qu'est-ce que tu préfères?
Les vaches, les tracteurs.
Ah, c'est la ferme?
Oui.
Bah, t'es comme ton père, quoi.
Oui.
Et c'est pour lui aussi que David se bat.
Là, on est dans mon ancien garage, donc, qui maintenant sont devenus les loges. Salut.
Bonjour.
Ça va? Et là, maintenant, on va aller sur la scène.
Voilà.
Tu pourras me mettre un peu de réverb aussi. Un, et... Allez, venez, vivons,
vous asseoir à ma table. Vous, ça fait combien de temps que vous travaillez dans le cabaret?
Ça fait depuis juin 2016.
Et qu'est-ce qui vous plaît, travailler ici, dans ce cabaret?
Mais j'aimais le concept, en fait, du fait de ces agriculteurs qui ont voulu monter ça pour un peu s'en sortir. Ça change des autres cabarets traditionnels. J'aime le côté humain, en fait, de ce cabaret. J'ai été touchée par leur histoire.
C'est un cabaret qui a du sens, pour vous.
C'est ça, voilà.
Bonsoir, voilà. Bienvenue. Bonsoir, bienvenue aux Folies Fermières. Hein. Vous n'avez pas croisé les vaches en venant?
Non.
Allez-y, avancez-vous. Tu peux ouvrir, Jojo.
À l'intérieur, sans place assise.
On a eu Bordeaux, Lyon, Marseille, Antibes dernièrement, voilà, Montpellier. Les plus loin qui sont venus, ils viennent de Lille.
Vous attendez à un tel succès?
Non, non, au début, nous, on avait prévu de faire un repas à peu près par mois. Et là, on est à peu près à maintenant un repas toutes les semaines.
C'est la première fois qu'on vient.
Et c'est une bonne idée de créer un cabaret dans une ferme?
C'est énorme. Non, c'est énorme. Hé, hey, Patrick, c'est énorme le cabaret à la ferme. Ça le fait bien, on est bien, on est bien, on est bien.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les Folies Fermières vous présentent sa revue Nébuleuse.
C'est une folie, c'est la folie qui a fait ça.
Qu'est-ce qui vous surprend le plus?
Que dans un petit cabaret comme ça, qu'il y ait d'aussi belles filles. Je ne pensais pas qu'il avait les moyens d'avoir un casting de filles aussi jolies.
Et vous, madame, ça vous plaît?
Ça me plaît beaucoup, oui. Des vaches, des chèvres, des lapins, et là vous voyez des danseuses.
Et est-ce que c'est bon?
C'est très bon. Hein.
Vous avez là?
Oh là, j'ai du foie gras, du jambon, du saucisson.
On mange des produits qui ne viennent pas d'étrangers, qui n'est pas trafiqué, donc c'est ça aussi qui nous attire. D'ailleurs, c'est ça, je pense, sa réussite.
Allez, princesse, viens ici, viens. Viens, 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 viens. Allez, allez.
Reportage de Sandrine Houdin. Je précise que David Comette raconte son histoire dans un livre qui sortira le 13 février aux éditions du Rocher. Son titre, Les Folies Fermières, j'ai créé un cabaret pour sauver ma ferme. Il sera d'ailleurs présent au salon de l'agriculture. Chantal Joanneau, vous qui venez de la campagne, comment vous réagissez quand vous entendez ça?
Bah, ça me rappelle des bons souvenirs. Effectivement, je vous disais en aparté tout à l'heure que dans mon village, avant, il y avait des agriculteurs, que mon quotidien, c'était de ramener les vaches le soir et que c'était absolument génial, mais qu'aujourd'hui, effectivement, comme le disait très bien le président de l'Association des maires ruraux, aujourd'hui, il y a presque plus d'agriculteurs ou très très peu dans les villages et que ce sont d'autres formes de vie qui se sont développées.
Alors David Comette, lui, va raconter son histoire, je le disais, il sera au Salon de l'Agriculture. Vous avez écrit Sans Tabou qui est sorti en 2010, on en a parlé tout à l'heure. Vous avez aussi écrit ce que vous appelez un essai d'anticipation 2037, la société des possibles. Vous imaginez ce que pourrait être le monde de demain si on changeait radicalement de modèle économique et écologique, c'est ça Chantal Joanneau?
De modèle économique et aussi de peut-être de valeur. C'était un livre qui se voulait accessible à tous, hein, parce qu'il coûte rien, et qui était très optimiste, parce qu'on entend beaucoup de choses très pessimistes, mais le champ des possibles est immense. Après, c'est forcément un livre qui se trompe, comme tous les livres d'ailleurs. Donc c'est forcément un livre.
Oui, parce que 2037, il y a des choses, je pense pas que ce sera effectivement
le cas. Non, je pense
cas.
Qu'effectivement, il y a peu de oui, mais ça fait partie du champ des possibles quand même.
En tout cas, il y a une grande réflexion en ce moment sur tout ce qui est écologie. Cette semaine, il y a eu aussi un appel, Chantal Joanneau, de plusieurs centaines de personnes qui ont lancé un appel pour un lundi vert sans viande ni poisson, pour un changement des comportements alimentaires. Je vous demande ça parce que j'ai cru comprendre que vous étiez devenue végétarienne en tout cas à un moment. Vous auriez pu, alors il y a Yann Arthus-Bertrand et Isabelle Autissier qui ont signé, vous auriez pu signer cet appel?
Bah, les temps, oui, ne serait-ce que parce que voilà, c'est un choix tout à fait personnel. Je considère que chacun est libre de choisir effectivement sa manière de vivre, mais ça c'est le mien.
En tout cas, vous dites dans votre livre Sans Tabou, je ne suis pas née écologiste, vous l'êtes devenue tout au fil de ce travail que vous avez fait.
Oui, je pense que personne ne naît, de toute façon, on devient ce qu'on est, hein, on fait des choix. Et je le suis devenue par rencontre, par conviction évidemment, par étude, parce que je me suis renseignée sur ces différents enjeux. Et moi, ce qui me frappe énormément, c'est qu'il y a quand même une grande majorité de nos concitoyens qui le sont, qui ont une vraie aspiration. Après, c'est...
Y compris les gilets jaunes hein, qui le disent aujourd'hui.
Hein
C'est pas parce qu'ils se sont élevés contre la hausse des taxes sur les carburants qui ne le sont pas. Merci Chantal Joanneau d'être restée avec nous pendant cette première heure. Mais vous ne partez pas, on l'a dit.
Je ne pars pas.
Car après le journal de 19h, vous allez répondre aux questions des auditeurs et des auditrices de France Inter sur ce fameux grand débat, puisque vous êtes chargé de son organisation. John Billard, vice-président de l'Association des maires ruraux de France, nous rejoindra également, ainsi que Cyril Graziani du service politique de France Inter pour les interroger. 01 45 24 7000.